France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'orientation post-bac. Et oui, il faut se poser la question avant même d'avoir passé réussi le baccalauréat. Formuler des vœux, des souhaits, se demander quelle discipline vous intéresse, quelle filière vous comptez suivre. L'offre est pléthorique, le choix important, même s'il ne détermine pas le reste de votre vie, heureusement, et que vous avez bien entendu le droit à l'erreur. Comment se repérer dans le maquis de l'APB, la fameuse procédure d'admission post-bac? C'est donc le sujet du téléphone sonne ce soir. Nos spécialistes répondent à toutes vos questions, que vous soyez parent, lycéen ou déjà bac plus 1.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson, trois moyens de nous joindre ce soir. Qui est au standard, Gaëlle?
Oui,
bonsoir.
Bonjour à tous, merci de prendre mon appel.
Bienvenue.
Je suis actuellement sur APB avec mon fils, qui est actuellement en STI2D terminale, c'est-à-dire section technologique informatique. La question que nous nous posions, Maxime et moi, c'est que les choix de ses rêves, c'est de prendre, d'avoir une filière sélective, un DUT, en production, métier du multimédia et de l'Internet. Il n'a que 5 choix de ses rêves. Après, effectivement, il doit faire 12 choix sur les BTS, 12 choix sur les IUT, et éventuellement prendre une pastille verte, une licence, au cas où il n'aurait aucun de ses choix, et se retrouver en fac de droit, ce qui n'est pas du tout son rêve. La question est la suivante, c'est que s'il n'a pas ses 5 premiers choix en métier du multimédia et de l'Internet, y a-t-il un recours physique de se présenter ou de présenter un dossier devant le DUT de ses rêves? Parce que là, s'il n'a pas son métier du multimédia et de l'Internet, il va se retrouver sur peut-être un DUT informatique ou un BTS, et ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il a vraiment des rêves, et s'il passe à la moulinette, et y a-t-il un recours en fait? C'est un petit peu notre angoisse, parce que l'admission post-bac est quand même bien faite. On n'a pas besoin de faire la queue. Enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal.
Mais restez en ligne, Gaëlle. Restez en ligne. On va soumettre votre question à nos invités et voir ce qu'on peut vous conseiller. Pour vous répondre, donc, Julie Mlechko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef du site studirama.com. Sylvie Amici, bonsoir. Conseillère bonsoir. D'orientation et psychologue, Richard Audebran, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du département de l'orientation et de la vie de campus au ministère de l'Éducation nationale. Qui veut répondre à Gaëlle? Qui se lance?
Allez, je me lance.
Allez, Richard Audebran.
Donc en fait, avec son bac STI2D, ce candidat peut faire donc plusieurs vœux de DUT, hein, donc les 5 que sa mère a repérés et que lui aussi a repérés. Il n'est pas du tout obligé d'en faire jusqu'à 12, ni obligé de faire 12 vœux de BTS, si ce n'est pas des filières qui l'intéressent. Il faut plutôt qu'il réfléchisse à un moment donné au métier qu'il a envie d'exercer. Quelle est la profession qui l'intéresse et peut-être les filières parallèles qui lui permettent d'arriver à cet objectif en dehors du DUT. Faut qu'il voie aussi peut-être à élargir son choix sur d'autres territoires que peut-être le territoire de proximité qu'il a vu éventuellement. Qu'il regarde également aussi si ces formations sont proposées en apprentissage, ce qui lui permettra de faire d'autres vœux en parallèle et donc de démultiplier ses chances d'obtenir cette formation, en tout cas cette perspective d'évolution professionnelle. Après, il y a aussi d'autres possibilités, peut-être de voir avec des écoles d'ingénieurs, ils peuvent faire aussi une CPGE technologique.
Une classe préparatoire aux grandes écoles.
Pour éventuellement après intégrer aussi une école d'ingénieurs qui peut correspondre aussi à la profession qu'ils souhaitent exercer.
Mais il n'y a pas de recours, demandé Gaëlle.
Non, parce qu'en fait, les formations qui sont sélectives, en fait, décident en leur sein des critères de sélection. Et en fait, elles sont souveraines. Donc, si un recours peut être effectué, il est uniquement auprès de du DUT qui intéresse le jeune homme.
Sylvie Amici.
Alors, comme le dit très bien madame, son fils, Maxime, a un rêve. C'est-à-dire qu'a priori, en plus, un rêve qui est assez concret, puisqu'il s'est renseigné, il s'est informé, il sait que c'est le diplôme qui correspond le mieux. Je pense qu'il a dû aller aux visites, aux journées portes ouvertes, etc. Il y a deux choses qui se passent quand les jeunes, comme ça, en terminale, ont quelque chose de très construit dans leur projet. C'est que, effectivement, l'élargir à d'autres vœux, eh bien, c'est pas si simple, même si nous, en tant qu'adultes, ça peut nous paraître cohérent, parce qu'on sait qu'il n'y a pas qu'une seule voit qu'il peut y avoir des passerelles. Donc c'est un processus qui n'est pas si simple que ça à envisager. Et voire même, il peut y avoir un certain aspect un peu, une pensée un peu magique qui serait que de s'intéresser à autre chose que ce qu'on veut pourrait nous nous faire perdre notre vœu, ou voir faire d'autres vœux, nous ferait perdre une priorité. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je le dis pour tout de suite.
C'est-à-dire qu'il y a mille façons d'arriver au même but.
À la fois qu'il garde son but, il peut envisager d'autres voies, et c'est pas parce qu'il mettra d'autres vœux que ces vœux, les premiers, seront examinés autrement. Ils seront examinés de façon indépendante. Par contre, cette idée que pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas ? Il y aura aussi toute cette phase où il peut confirmer en mettant oui mais un autre vœu. Mmh. Et ces vœux-là, ce n'est pas pour. Il y a plusieurs phases dans APB.
Mais ça semble assez injuste d'avoir un rêve très construit, une volonté, même un désir d'intégrer une filière et de se dire bon bah il va falloir passer par ailleurs, trouver d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on répond à ce sentiment-là d'injustice, tout simplement? Rien.
Au sentiment d'injustice que peut avoir un adolescent qui a travaillé son projet.
On se dit, voilà, tout est tracé, ça peut se passer par là.
Bon, en tant que psychologue, je ne peux que le comprendre. Mm-hmm. En tant que praticienne au quotidien qui était dans un lycée cet après-midi, je ne peux que moi-même être en colère, surtout quand le projet a été sérieusement travaillé. Après, il faut l'admettre, et je pense que ça sera un peu le bémol qu'on mettra, c'est que là, actuellement, le système d'enseignement supérieur est sous tension par rapport à la démographie et ne sait pas répondre à cette question-là. Ne sait pas répondre, en tout cas n'a pas trouvé la façon de répondre à cette question.
C'est l'apprentissage de l'orientation, de la frustration et de l'injustice en même temps, c'est ça, les trois vœux.
Je pense que Maxime va sûrement avoir l'un de ses cinq vœux.
Oui, Gaëlle, Julie Mejko.
Il ne faut pas du tout partir perdant déjà. Je veux dire, si son projet, en effet, comme disait madame, est très travaillé, il est vraiment motivé, moi je l'inviterai aussi à prendre contact avec le DUT directement. Je sais très bien qu'il est obligé pour lui de passer par APB, mais juste aller sur place, montrer aussi sa motivation, qu'on se souvienne de lui et de son dossier, et voilà, et tout tenter, et
Gaëlle,
se laisser les portes de sortie, bien sûr.
Gaëlle, les réponses
me satisfont pleinement, voilà. Parce que je pensais réellement avec Maxime, enfin c'est lui, il a déjà pris contact avec des directeurs, l'équipe, et comme on sait qu'on risque de ne pas avoir ces cinq vœux, c'est ce qu'on pensait faire. Donc vous confirmez notre démarche et j'espère que ça marchera.
On espère aussi, et surtout qu'il tienne à ses rêves, hein, et qu'il n'en change pas, Gaëlle.
Je l'encourage depuis jeune à tenir ses rêves.
C'est magnifique, merci beaucoup et bonsoir Arnaud.
Merci à vous tous.
Bonsoir Gaëlle, bonsoir Arnaud.
Bonsoir, moi je vous appelais parce que... Allô ?
Oui.
Ah, je vous en parle. Alors merci pour France Inter et tout ce que vous faites.
Merci à vous.
Voilà, et alors par contre, moi je suis... Alors là c'est super bien parce qu'on a une maman qui a un garçon qui est motivé, qui a une... Mais quand on a des garçons qui sont pas motivés, ce qui est mon cas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout, qui ont des envies, mais que des envies, je trouve que même à 17 ans, juste avant le bac... Ben c'est très tôt pour choisir sa vie, sachant qu'on ne nous parle que de flexibilité, qu'on aura des mouvements de carrière, et j'en suis un exemple, moi j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, je trouve que c'est très surprenant qu'on veuille impérativement imposer aux enfants, je trouve très très jeunes, une filière dans laquelle après il est très difficile de s'en sortir quand on a fait un BTS, et pourquoi on n'a pas plus de sections plus générales de l'enseignement qui permettrait après de pouvoir se dispatcher quand on a 22, 23, 24 ans. Voilà. C'est vrai que si on veut faire médecine, il faut commencer très tôt. Mais tout le monde ne sera pas médecin. Tout le monde ne sera pas avocat ou des professions très spécifiques. Et je pense que on a un système éducatif qui nous oblige à choisir, enfin, qui oblige nos enfants à choisir trop tôt dans leur vie, de même pas d'adulte, d'adolescent. Quoi.
Arnaud, merci pour cette intervention qui est effectivement la symétrique inverse de la précédente. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants qui n'ont pas d'idées très précises de ce qu'ils veulent faire après le bac, Sylvie Amici?
Alors, on lui
vous devez en rencontrer, vous, comme conseillère d'orientation.
Oui. Alors, on lui dit que c'est pas grave, qu'il est juste confronté à l'une des missions humaines les plus compliquées dans la vie, celle de choisir. Et voilà. Et que choisir, c'est pas simple. Que c'est stressant, que c'est angoissant, que c'est la peur de renoncer, mais qu'il faut aussi renoncer à certaines choses. C'est faire des compromis. Alors, pas trop de compromis. Hein. On a dit que les rêves, c'était important. Mais qu'en fait, il est face à ça. Alors là, il faudrait savoir, pour répondre plus précisément, en quelle section est le garçon dont nous parle Arnaud.
Ah, il a raccroché. Ah, Arnaud a raccroché. Non, mais c'est-à-dire, la question est, quelle est l'orientation d'attente en espérant qu'une envie va se dévoiler au bout d'un an ou deux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas hypothéquer l'avenir et laisser tous les possibles ouverts?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas choisir?
Voilà. Pour différer le moment du choix.
Pour différer le moment du choix. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que représente APB, mais je pense que le fait qu'il y ait un moment de choix qui se présente, l'idée c'est de le construire de la façon la plus intéressante, qui laisse effectivement, qui soit en cohérence avec la personne, ses goûts, la façon dont il envisage les choses, mais ça va le construire aussi, c'est-à-dire de s'informer, de chercher ce choix, ça va le construire aussi.
Richard Audebrand.
Oui, alors, deux choses, je pense que... Il ne faut pas le repousser, le choix, il faut peut-être l'anticiper, il faut aussi en tout cas le construire progressivement, en particulier dès l'entrée en lycée, en l'étant en première aussi pour justement découvrir la palette des formations qui existent et affiner son choix pour la terminale et pas le repousser à la dernière minute pour limiter l'angoisse. Il y aura toujours un choix. Après aussi, le choix n'est pas définitif. On place souvent et on met une image qui est qu'on entre dans une voie et Arnaud le disait lui-même qu'il a bien bifurqué. Il y a beaucoup de passerelles qui existent. On met en place la spécialisation progressive en licence pour pas justement rentrer dans des tubes et avoir un panel le plus large possible pour rebondir et éventuellement arriver à trouver sa voie, le choix n'est pas définitif immédiatement. Donc il y a d'autres possibilités.
J'aurais une autre sorte de réponse.
Sylvie Amici et puis Julie Mlechko.
Le choix, une chose qui, c'est vrai, n'est pas tellement inscrit dans la culture sociologique, on va dire, française, c'est aussi une année, on va dire, de césure, une année sabbatique, une année... il faut savoir que une nouvelle règle d'APB veut que de toute façon, il sera considéré, quand il repostulera dans APB, comme un sortant de bac. Pourquoi pas? Pourquoi pas choisir l'expérience de vie, l'école, le voyage, un engagement associatif pour une année? Pourquoi pas?
Julie Mlechko,
oui, c'est ce qu'on conseille assez souvent, c'est-à-dire si on a l'occasion, partir peut-être 6 mois ou 1 an à l'étranger, voir autre chose et du coup maturer son projet. Le milieu associatif, parfait. Les jobs étudiants, on se met dans le monde du travail. Mmh. Est-ce que j'aime ça? Non, ça j'aime pas. Bon, déjà, je l'évacue. C'est pas ça qu'il me faut. Maintenant, je pense que ça remonte. On leur parle de l'emploi et d'un choix. Là, en terminale, c'est un peu tard. Ils ont un stage en 3e de quelques jours. C'est pas suffisant. Je pense qu'on devrait parler de l'orientation bien avant. Pour en effet, tout de suite, alors sans qu'ils aient pareil, un choix définitif à faire. En terminale, évidemment, c'est difficile. Ils sont très nombreux à ne pas savoir ce qu'ils veulent faire. Mais au moins, avoir une idée de c'est quoi le monde du travail, c'est quoi les différents secteurs, et moi, un petit peu, pourquoi je suis fait, vers quoi j'ai des appétences. Mmh.
Allez, on retourne au standard. Catherine nous appelle de Marseille. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors voilà, moi j'ai ma fille qui est en terminale ES à Marseille, qui n'a pas des résultats mirobolants depuis la seconde, en fait. Elle est dans le lycée du centre-ville de Marseille, donc elle est au lycée tiers. Ce qui, je pensais au départ, était un avantage et qui, maintenant, je me dis, c'est peut-être un handicap pour elle parce que la notation est très dure dans ce lycée. Et aujourd'hui, ce matin, là, on regardait APB toutes les deux. Et en fait, je me rends compte qu'elle n'a pas tant le choix que ça si elle veut entrer dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'elle a la fac de droit ou la fac de droit. C'est-à-dire la fac, en tout cas. Parce que si elle veut rentrer dans une prépa, elle sera jamais prise sur dossier. C'est pas possible. Vu son niveau, elle est à 11, 12 de moyenne. Ça ne passera jamais. Et je me disais que c'est quand même dommage qu'elle puisse pas, après une première année de fac, peut-être retourner sur une prépa pour pouvoir ensuite passer comme elle le souhaiterait finalement. Et puis peut-être l'ENS si elle a envie ou l'entrée à l'IEP si elle a envie. En fait, elle peut pas, quoi. C'est si elle rentre sur le cursus universitaire classique, ex-Marseille Université, elle peut pas retourner sur une prépa après. Je trouvais ça dommage.
Alors restez en ligne, Catherine. Il semblerait qu'il soit possible de revenir dans un premier circuit après une année de fac. Non, oui, je me trompe, Richard Audebrand.
Tout à fait. secondaire. Après une première année d'université, tous les candidats peuvent postuler en CPGE, en classe préparatoire aux grandes écoles. Ça peut être un parcours. Il faut voir aussi que toutes les classes préparatoires aux grandes écoles fixent leurs propres critères. Peut-être qu'avec aussi un profil tel que la fille de Catherine, elle peut aussi peut-être trouver une classe préparatoire qui correspond à son projet dit immédiatement. Donc moi, je lui conseillerais aussi de faire des vœux en classe préparatoire, en grandes écoles, dès cette année.
Julie Mlechko.
On revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils jouent leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire dans une formation et après, ils ne pourront plus en sortir et c'est fini, c'est pour 3, 4 ou 5 années. Ce n'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, on peut rebondir. Alors peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations là-dessus, mais s'ils se renseignent, ils verront bien qu'on a le droit à l'échec, on a le droit de se tromper. Il y en a plein des étudiants qui, tous les ans, se trompent, se disent c'est pas grave, je repars de plus belle. Et donc, peut-être qu'après une année de droit, soit ça va lui plaire, elle va continuer, soit elle aura plus bossé et pourra représenter une CPGE si son projet est plus défini.
Sylvie Amici.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, un peu comme le premier auditeur, là, il y a un rêve. Le rêve, il est plutôt construit sur une prépa, peut-être l'ENS après, ou Sciences Po, finalement. C'est ça que dit la maman. Et que, quand elle regarde les filières de fac, elle a l'impression qu'à part droit, alors, il n'y aurait pas de filière qui pourrait convenir par rapport à une jeune fille qui aurait ce goût pour plutôt des études, on va dire, plus générales, tournées vers les sciences politiques, on va dire comme ça. Alors déjà, il y a pas que droit, il y a aussi des filières de sciences politiques à l'université, il y a aussi d'autres filières littéraires qui permettent de rattraper des prépas, il y a aussi des filières universitaires de plus en plus nombreuses qui permettent de reprendre des masters dans les instituts d'études politiques. Là, de la même manière, mais bon, c'est mon métier, je dirais, pousser la porte d'un CIO, rencontrer une de mes collègues, s'il y a encore un CIO proche de chez vous, ou s'ils n'ont pas été déménagés dans des locaux qui ne leur permettent pas de vous accueillir convenablement.
Une petite revendication catégorielle.
Elle est
pour le bien public. Expliquez-nous, les CIO, il y en a de moins en moins, c'est plus difficile.
Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est que, dans un double mouvement de désengagement des départements qui finançaient certains fonctionnements, hein, pas les personnels, qui finançaient certains fonctionnements de CIO. Mais de l'autre côté, le ministère qui a repris à sa charge le fonctionnement de certains CIO, on va dire que l'un ne recouvre pas l'autre et que dans l'affaire, de nombreux CIO, ça se compte en centaines, ferment. Donc il est possible que les gens n'aient plus de CIO proches de chez eux, c'est-à-dire soient même en situation de faire plus d'une heure de transport. Donc on voit bien qu'un lycée, c'est compliqué. Et dans certains endroits, le CIO a été préservé, mais pour des raisons, on va le dire très clairement, budgétaires, relocalisé dans des endroits, des lieux qui ne permettent pas un accueil décent du public, autant le dire. Alors j'ai la chance de travailler dans un CIO qui est resté ouvert. Je travaille à Aulnay-sous-Bois, donc en plus un lieu, une ville qui a besoin qu'on soutienne les jeunes dans leur ambition et leur parcours. Mais il faut savoir qu'on était menacés de fermeture. Que du coup, les élèves, c'était 45 minutes de transport qu'il leur fallait s'ils voulaient accéder à nos services. Et que,
Et du coup, ils n'y vont pas, les élèves, trop loin.
Quand c'est trop loin, de la même manière qu'on a des rêves, ces rêves, quand il s'agit de prendre les transports et d'avoir 45 minutes de transport pour avoir un entretien, alors après, ils peuvent nous rencontrer dans les établissements scolaires, mais je crois que le lieu CIO est un lieu important qui est sorti de l'école. Et là, par exemple, pendant les congés scolaires, puisque certaines zones sont encore en congé, les CIO organisent par exemple des ateliers.
On retourne au standard. Bonsoir, Zachary.
Bonsoir.
On vous écoute, vous nous appelez de Rennes.
Oui, je suis lycéen, mais je suis en première, donc c'est pas cette année pour moi APB, mais on entend quand même déjà parler un petit peu avec les profs. Et je veux dire, je suis d'accord avec ce que vous dites, que c'est assez impressionnant de devoir faire son choix, qui paraît quand même assez définitif dès le lycée. Et donc je voulais savoir, nous APB, donc on entend déjà un peu parler, donc c'est 3 lettres et ça ne nous paraît pas tellement humain. Et donc comment est-ce que se faisait la sélection par un logiciel, parce que nous on ne sait pas trop, c'est cette entité-là dont on entend parler, mais sans que ce soit très concret derrière.
Est-ce qu'il y a un être humain qui intervient l'orientation?
Est-ce qu'on est vu nous aussi comme des êtres humains ou comme des notes ou voilà.
Ne bougez pas, Zachary. Vous me semblez avoir la tête bien faite pour un certain nombre de disciplines. Qui veut répondre?
Je vais répondre.
Le patron de l'algorithme, Richard Audebrand.
Donc, ça dépend. Pour être clair, donc, on a diffusé l'algorithme en juin dernier, là, en ligne, pour expliquer de façon un peu intelligible comment fonctionnait le portail admission post-bac, qui met en relation, en fait, les candidats avec les formations. Donc, en fait, là, on est juste un vecteur pour la majorité des formations. On n'est qu'un vecteur. Et donc, en fait, on transmet, en fait, le dossier du candidat vers la formation qui, elle, a ses propres critères de sélection et remonte le classement de ceux qui, des candidats qu'elle a retenus, avec ses critères qui sont souvent liés au parcours scolaire, à la motivation et au projet professionnel.
Donc l'algorithme est neutre.
Là, pour cette partie-là, l'algorithme est complètement neutre.
C'est
pour
une les boîte aux lettres, quoi. Enfin, voilà. C'est le service de la poste.
Comme avant, numérique. Quand il n'y avait pas admission post-bac où les candidats postulaient sur des établissements puis recevaient une réponse. Voilà. Pour alors, les formations qui ne sont pas sélectives, donc pour la licence, pour faire court, donc là, il n'y a pas de sélection. Donc en fait, c'est l'algorithme qui classe les candidats en fonction des critères qui sont prévus par la loi, donc en tenant compte du domicile, de la situation de famille et des préférences du candidat.
De la proximité par rapport à l'université, ce genre de choses.
Voilà, sur le territoire de l'académie, donc la proximité peut être relative.
C'est-à-dire
L'académie est des fois grande.
D'accord, donc ça peut être très très loin.
C'est pas toujours très loin, on est dans le territoire régional.
Qui veut ajouter quelque chose? Non, Sylvie Amici, Julie Mlechko.
Sur la question des critères, c'est vrai que... déjà, ce jeune homme, il est en première. Moi, je pense que c'est important en première de commencer à s'intéresser. Il faut savoir que dans l'année, il va pouvoir accéder à des simulations pour les élèves de première. Mais déjà, même maintenant, il peut aller sur APB. Il ne rentrera pas en tant qu'élève, mais il peut accéder aux formations et voir comment ça fonctionne au niveau des menus déroulants. Moi, je le conseille comme porte d'entrée pour se documenter, parce que finalement, par rapport à la multitude de sites plus ou moins à jour, plus ou moins sérieux, plus ou moins denses, c'est une bonne porte d'entrée. Franchement, c'est aussi un très bon outil d'information APB. Par contre, après, sur les critères, en tant que professionnel, je pense qu'il y a quand même une certaine opacité. Ces algorithmes, nous ne les avions pas. L'année dernière, il y a eu des dossiers où on était vraiment dans l'incompréhension totale de pourquoi ces élèves-là n'avaient pas été affectés. On va revenir au problème de la démographie et de la tension sur les sections.
Et donc, quand il y a trop de candidats, l'algorithme gère comment?
Ah, ça, je ne sais pas vraiment. On va demander à monsieur.
Richard Rodman.
Voilà. Donc,
c'est du poker, c'est un jeu de hasard.
C'est ce que je
dis. Ou de la roulette.
Non. Donc, il y a un traitement automatisé critérisé pour faire complexe. Donc, en fait, on a un traitement qui prend une priorité sur une formation de licence aux candidats de l'académie, que ce soit l'académie de résidence ou l'académie de passation du bac. Après, qui donne préférence et privilège aux candidats qui ont classé parmi ces candidats de l'académie la formation en vœu numéro 1. Puis après, s'il reste des places, on va passer à ceux qui ont donné la formation, qui ont mis la formation en vœu numéro 2, puis après en vœu numéro 3, etc. On va passer ensuite aux candidats qui ne sont pas de cette académie, de ce territoire régional, le plus souvent. Et donc, on classe ainsi tous les candidats. Il faut voir que l'année dernière, on a eu vraiment une très forte diminution de ce qu'on appelle le tirage au sort. Et on essaye, parce qu'on a augmenté les capacités d'accueil pour limiter le tirage au sort, qui concerne que la minorité des formations. Alors certes, dans certains cas, ça va toucher des candidats, mais c'est quand même une minorité des cas.
Rassuré, Zachary, ou terrifié par ce qu'on vient de dire?
Informé, on va voir les prochaines.
C'était pareil il y a 20 ans, nous dit Julie Mlechko.
C'était pire.
C'était même pire.
Oui. Je veux le rappeler, c'est que moi, à l'époque, donc, je me suis inscrite en fac de socio à Évry, je suis passée par le Minitel. Et on n'avait pas cette possibilité de faire autant de choix et de répondre oui, mais, et de se laisser des portes ouvertes. C'était oui ou non, le couperet tombait. Donc je pense qu'APB là-dessus a quand même fait des progrès et a permis plus de facilité.
Vous savez ce que c'est un Minitel, Zachary? C'est la forme archaïque de l'ordinateur.
Et t'es fait en Bretagne.
Donc oui. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire comme étude, vous, Zachary, ou pas?
du journalisme.
Ah, j'allais le dire, c'était sûr.
On va vous prendre hors antenne. On n'a pas le temps, il nous faudrait un peu plus d'un quart d'heure. Merci en tout cas d'être intervenu, Zachary. Et c'est vrai que les filières vers le journalisme sont multiples, très diverses et parfois baroques. Louise, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, bienvenue.
En fait, c'est un peu en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que notre fille va passer son bac en juin. Elle a un projet de vie dans une autre académie que celle dans laquelle on est.
Ah, vous avez été coupée, Louise.
Allô ?
Elle a un projet de vie, disiez-vous, dans une autre académie.
Voilà, et en fait, la pastille verte ne peut s'obtenir que sur un choix au sein de l'académie. Donc, on n'est pas sûr qu'elle puisse partir dans une autre académie l'année prochaine.
Merci pour cette question. Qui veut dire un mot ici?
Je peux poser une question. Mais
restez en ligne, Louise.
Son vœu correspond à la pastille verte qu'elle demande?
Louise?
En fait, alors clairement, la pastille verte, donc c'est pour, elle veut faire une licence de linguistique. Voilà.
Oui.
Donc il y a ce choix à l'université de Caen. Et elle veut partir super loin, à l'université de Rouen. C'est pas possible. Enfin, c'est pas sûr.
Alors, le fait
Sylvie
est...
Sylvie Amici vous répond.
Excusez-moi. Le fait est, c'est que oui, elle a cette obligation pour démarrer. Donc, tous les élèves qui sont dans des bacs généraux ont l'obligation. C'est-à-dire que, par rapport à cette histoire de rêve, tous les élèves de bac général doivent commencer par choisir quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Il faut savoir... Donc, vous imaginez bien au ton que j'utilise ce que j'en pense.
Du mal, j'ai l'impression... Oui.
En tout cas, c'est un contraint très 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 fort dans une liste en plus arrêtée, hein, c'est-à-dire que c'est pas non plus dans une liste, c'est une liste qui est contrainte.
Vous nous donnez un exemple, je veux faire des lettres, on m'oblige à choisir la géo, c'est ça?
Ah non, c'est quand même dans une liste. Mais il y aura peut-être pas des lettres dans la liste.
Expliquez-moi encore mieux, parce que je ne peux pas faire de lettres.
Non, c'est pas ça. C'est que la pastille verte, c'est un... Mais du coup, Monsieur Daubrand pourrait peut-être mieux expliquer. Mon rôle n'est pas d'expliquer des choses aussi techniques, mais la pastille verte, l'idée, c'est pour être sûr qu'un élève puisse être affecté, on va commencer par lui demander une licence où l'on sait que précédemment, mais on n'en est pas sûr pour cette année, précédemment, il y avait de la place. D'accord.
Donc, jusque-là, tout va bien.
Sauf que dans ces sections qui sont où il y a de la place, communément, il n'y a pas toutes les sections. Par exemple, sur la région parisienne, il faut savoir que les sections scientifiques, alors que on peut se dire, il y a tout un discours de, on manque de scientifiques, les sciences c'est important, il faut former plus de scientifiques. Il n'y a quasiment pas de licence pastille verte sur les sciences. Voilà. Mmh. Donc, par exemple, nos élèves scientifiques sont obligés de choisir une autre licence dans un autre domaine. Donc là, pour madame, elle est obligée de choisir une pastille verte dans son académie, mais après, elle peut mettre tous les autres vœux qu'elle désire vraiment et elle pourra les reclasser en vœux 1, 2, 3 et mettre la pastille verte en tout dernier.
Richard Audebrand.
Oui, en fait, les licences qui sont identifiées avec une pastille verte sur APB sont donc les licences qui ont des capacités suffisantes pour accueillir tous les candidats, en particulier tous les candidats de l'académie. C'est la majorité des formations de licences. On a quelques points de tension en Île-de-France, comme le rappelait la collègue, mais donc globalement, en particulier dans le projet de la jeune fille, il n'y a pas de souci aussi sur les pastilles vertes en lettres, et en particulier même à Rouen, elle aura toutes ses chances. L'idée était pour le ministère de demander aux candidats bacheliers généraux de faire un choix, peut-être par défaut, mais plutôt que la procédure qui existait au préalable, où si le candidat n'avait obtenu aucun de ses vœux en procédure complémentaire, qui existe sur APB, le choix est très très restreint. Et donc, plutôt que de faire un choix sur un nombre de formations encore plus restreint, on privilégie d'anticiper, le cas échéant, un choix de repli qu'il n'est pas obligé de classer en vœu numéro 1, qu'il peut mettre en dernière position. Et parmi les 12 000 formations et les 2 000 et quelques licences qui existent, trouver une licence qui pourrait l'intéresser, peut-être pas en priorité, il ne la mettra pas en priorité, mais éventuellement une licence qui ne lui déplairait pas totalement.
Alice, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais juste apporter un témoignage par rapport à... J'ai un fils qui est en première S. Et Lui, il a déjà fait son choix par rapport à APB, justement, et notamment par rapport à la complexité d'APB et à ce que racontent ses copains. Et il a décidé qu'il ferait médecine. Donc c'est un enfant qui a 18,8 de moyenne générale, qui s'en sort plutôt bien.
Plutôt bien, oui.
Plutôt très bien,
ouais.
Qui est dans un des meilleurs lycées d'Aix-en-Provence et qui n'a pas du tout envie de rentrer dans la machine APB par rapport au... Lui, ce qu'il me dit, c'est que il y a trop de critères de nombre de places, de sélection et compagnie. Et il me dit, tant pis.
Et alors, comment il va faire, du coup ?
Eh ben, il va... Alors, je connais pas encore le truc, mais la machine APB. Mais il m'a dit, je mettrai qu'un seul choix, médecine à Marseille.
Alors, on vous remercie déjà, Alice, et on va voir ce qui est possible ou non. Sylvie Amici, Julie Mleschko, ça discute très fort, Alice, autour du cas de votre fils.
Vous allez en cauchemarder cette nuit. Il va falloir quand même qu'il demande une pastille verte.
C'est obligatoire actuellement dans la procédure.
C'est-à-dire l'une de ces filières qu'il ne veut pas suivre, mais dont on sait qu'elles offrent des places, c'est ça ?
Et je vous rajoute ça, alors je ne sais pas sur Aix-Marseille, je ne connais pas bien,
problème.
Mais en région parisienne, PACES, c'est une pastille orange. Et lorsqu'on demande une pastille orange, il faut du coup avoir 6 pastilles. Parce que si on n'a pas 6 pastilles, c'est pas considéré dans la même priorité. Donc, parce qu'en fait, ce jeune homme,
cet
après-midi au lycée,
18,
voilà.
De moyenne
cet
générale.
Après-midi au lycée, en fait, j'ai reçu une jeune fille qui c'était l'équivalent. Voilà. Brillante, 18, un projet construit, réfléchi, elle a fait les visites, elle a tout ce qu'il fait. Mais l'air de rien, elle se retrouve quand même, avant de pouvoir faire son vœu PACES, à devoir trouver une pastille verte. Et une fois qu'elle a fait, et son vœu PACES et son pastille verte, il faut encore qu'elle rajoute 4 pastilles oranges qu'elle ne veut pas, mais qu'il est nécessaire, parce que si elle n'a pas 6 pastilles oranges... Ah oui, non mais regardez pas comme ça.
Ah non, mais moi je suis absolument halluciné. D'ailleurs, je vais donner la parole à Alice qui est encore là. Alice, vous avez bien compris que votre fils ne pourra pas faire ce qu'il veut. Hein.
Si, non, parce qu'il a de fortes chances d'être affecté en médecine, il n'y aura pas de souci. Oui. Mais la machine APB va lui demander de faire tout ça.
Vous avez compris, Alice ?
J'ai très bien compris que mon fils fera médecine à Marseille, alors qu'il aurait peut-être pu faire d'autres choses.
Ah, parce qu'il veut faire autre chose.
Mais parce qu'il ne se pose pas la question.
Alors expliquez-nous quelle question il se pose.
Et il ne se pose pas la question parce qu'il ne veut pas justement faire des priorisations en fonction de ses notes. Et, moi, je ne connais pas encore le système APB parce qu'il n'est qu'en première et qu'on n'est qu'au deuxième trimestre. Et donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me pencher sur le problème.
Mais il veut faire médecine pour faire médecine et devenir médecin, ou médecine pour éviter de faire un choix et garder toutes les options ouvertes ?
C'est une bonne question.
Bon, on vous laisse en débattre en famille. Hein. Là, on peut plus rien faire, je suis désolé. Mais en tout cas, bravo à lui. Bravo à lui et belle vie dans les études supérieures. Qui est en ligne ? Je ne sais pas. Coraline, bonsoir, vous nous appelez de Paris.
Oui, tout à fait, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à tous et merci pour l'accueil de vos émissions et de vos intervenants également. Moi, je voulais juste apporter un petit témoignage personnel. Maintenant, j'ai fini mes études et très franchement, c'est pas grâce à APB. Quand j'ai postulé, je crois que c'était la première année de la mise en application de ce système et j'avais demandé un choix qui était celui que je voulais parce que je savais ce que je voulais faire. Et donc, c'était de l'histoire de l'art à Paris. Moi, je venais de province. Et donc j'ai pas pu accéder à cette formation qui était contingentée, je crois. L'application me disait que mon dossier électronique avait été transmis et j'ai jamais compris en quoi consistait ce dossier électronique. Par ailleurs, j'avais fait des demandes de prépa, donc par dossier papier. Donc là, je savais ce que j'avais mis dedans. Et finalement, alors j'étais une très bonne élève, j'ai eu mon bac mention très bien. Et moi, j'ai été acceptée sur APB à mon 4e vœu. Ça m'a vraiment surpris, sachant mes notes, mon parcours scolaire qui était cohérent, que j'ai fait de l'histoire de l'art, etc. Mais APB m'a servi à rien et finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais grâce à un concours dans une école à Paris. Voilà.
Merci Coraline pour ce témoignage qui évoque quels commentaires chez vous, Julie Mlechko, Sylvie Amil, oui.
Juste, on parle du dossier, elle se demandait ce qu'il y avait dans ce dossier électronique. Oui. Comme c'était l'université, qu'il n'y avait pas de sélection, c'était juste ses informations de base, voilà, son nom, son adresse, etc. Donc c'est juste, APB lui disait juste que sa demande avait été faite. Maintenant, elle parlait de dossier papier aussi. Il faut noter que cette année, il n'y a plus de dossier papier et ça, c'est une bonne chose. Hein. Il fallait plus, vous avez plus à courir à la poste, cacher de la poste faisant foi pour que l'établissement reçoive. Tout se passe de façon électronique et ça, c'est une très bonne chose.
Quelqu'un veut ajouter un mot? Oui,
tout l'univers,
Sylvie Amici, puis Richard
Audran. Tout l'univers de l'entrée dans l'enseignement supérieur ne passe pas non plus par APB. C'est-à-dire qu'il y a encore des filières, voire des filières universitaires, où c'est sur dossier, en dehors de toute procédure APB. Donc c'est intéressant, effectivement, aussi d'aller regarder les autres entrées possibles, les autres possibilités. Il y a aussi beaucoup de choses sur concours, hein, ça a été dit. Donc je conforte la prise de parole de la personne.
Richard Audran.
Oui, ben dans le cas précis de Coraline, en fait, en postulant sur une formation qui n'était pas dans son académie, elle n'était pas prioritaire. Donc, elle a peut-être eu, on ne sait pas quel est le quatrième vœu qu'elle a obtenu, mais elle aurait pu peut-être éventuellement avoir histoire de l'art au plus proche de son domicile, en tout cas.
Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris.
Oui, alors, parlons très vite. Donc, enfin, je souhaite également être journaliste France Inter.
on va prendre votre numéro de téléphone. Allez-y, Camille.
Ah, okay. Ah, je viens. Donc, voilà. Donc je suis en première ES, j'ai une moyenne de 15-16 et donc enfin je vis Sciences Po mais je veux bien préparer quand même les choix de l'APB car voilà, il faut pas négliger les chances que je rate le concours. Alors mon problème c'est que alors j'ai l'impression que les choix pour l'APB ils sont très spécialisés. Or je m'intéresse autant à l'économie qu'au français, enfin j'adore l'histoire, les langues, la sociologie. Donc j'ai l'impression en fait que l'APB va considérablement restreindre mes choix et que enfin je ne pourrais en quelque sorte plus faire marche arrière.
Merci Camille pour cette question. L'APB ferme les choix.
Non, il y a beaucoup de filières universitaires qui de plus en plus sont avec des bicursus, bilicences, des choses très nombreuses. Je voulais quand même, parce que du coup ça me revient, parler d'une chose qu'on n'a pas évoquée, mais en fait on aurait dû en parler dès le début par rapport aux jeunes là, qui demandaient un DUT. Il faut savoir aussi qu'il y a des dispositifs qui, après APB, viennent pour les élèves soit qui ont une mention au bac, soit qui sont parmi les 10% les meilleurs de leur filière dans leur lycée, leur permettent de, on va dire très rapidement, hein, c'est plus compliqué que ça, d'obtenir des vœux plus cohérents par rapport à ce qu'ils souhaitaient au départ.
Une sorte de prime à l'excellence.
Une prime à la réussite sur l'examen.
Vous n'aimez pas le mot excellence. Vous préférez réussite. Mais c'est pas grave. Qui veut dire un mot sur ce que disait Camille, Richard Audran?
Oui, il faut voir aussi par rapport à son projet de journaliste hein, que beaucoup de filières universitaires ont des cursus justement en complément, en partenariat aussi avec des écoles supérieures de journalisme, justement pour construire ces parcours-là un peu diversifiés. Il y a aussi beaucoup de formations qui sont de plus en plus généralistes. Ce sont des portails qui regroupent justement plusieurs types de formations qui permettent aux jeunes à l'université, par exemple, de choisir progressivement la filière qui les intéresse sans rentrer directement sur un choix initial.
Merci à toi. Qui veut dire un mot encore, Julie Mlechko?
Elle évoquait la sociologie. En effet, c'est une très bonne entrée. Je veux dire, à l'université, on est beaucoup sur de la culture générale. On continue les lettres. On peut aussi faire des maths, des langues. Donc, c'est la bonne voie.
Merci à tous les trois. Bon courage à vous, bachelier, bac plus 1 et parents. Le téléphone sonne et terminé pour ce soir.